Le Seigneur soit avec vous et avec votre Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était dans une ville quand survint un homme qui était couvert de lèpre. Il vit Jésus, tomba sur sa face et cria vers celui-ci et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et fut ému Jésus, il tendit la main et il toucha celui-ci et lui dit, je le veux, sois rendu pur. Et aussitôt sortit de lui la lèpre. Et alors Jésus lui ordonne de ne le dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. De plus en plus, on parlait de Jésus et de grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait, acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur, que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes, qu'il nous lave de toutes nos fautes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi, Alléluia. 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 Quand Jésus a guéri le lépreux, et le miracle d'avant, c'est qu'il avait ressuscité la petite fille de la synagogue, la petite fille, la petite vierge d'Israël. Et il avait été chez Marie avec Pierre, Jacques et Jean. Et puis il y a eu la transfiguration. Et puis quand il est descendu, il y a eu la transfiguration. Voilà, le contraste entre la nature humaine où circule librement en fond la sagesse créatrice originelle, primordiale, il y a Élie, la grâce dans sa plénitude, donc c'est la virginité donc de Marie, son adaptation parfaite au mouvement, donc enfin à l'envoi, quoi. La mission de Jésus, qui est une mission de rédempteur, quoi. Il va recréer une nouvelle matière, une nouvelle matière vivante, un nouvel univers, un monde nouveau. C'est beau comme mission d'ailleurs d'avoir ça. Ben, avant, il n'y avait pas d'univers, quoi. Il faut bien le dire. Il y avait le bon Dieu, puis c'est tout. Et puis Dieu a créé. C'est vrai. Dieu a créé l'univers. A créé. Et puis, quand on voit Jésus, on dit, ben voilà, ben Dieu. Voilà, c'est Dieu a créé, finalement, deux fois. Quoi. La première fois, il a créé à partir de rien, ex nihilo, et la seconde fois il a créé à partir du péché, à partir de quelque chose qui est moins que rien, et moins que rien c'est nous. Et on s'offre à nous pour qu'il puisse créer à partir de moins que rien. Mais c'est vraiment une création, c'est un créateur, quoi. Il crée la matière, il crée. Il y a un nouveau. C'est pas qu'il y a deux bérécites, mais il inscrit le second bérécite dans le premier. Ou plus exactement, il inscrit le premier bérécite dans le bérécite véritable.
Le bérécite véritable, c'est la Teshuvah.
Bien sûr. C'est là où l'univers est créé, à la fois dans la cause primordiale et à la fois dans la cause finale. Mais c'était déjà dans la cause finale, et la cause primordiale en Bereshit. Mais là, c'est par excellence, une heureuse faute qui nous a valu une telle seconde création. Alors on a conscience que c'est peut-être un beau signe de la paix, de la joie d'exister sur la terre, c'est de constater que c'est de constater le péché, quoi. De constater que la création n'est pas parfaite, d'une part, qu'elle est moins que rien. Elle aurait pu être quelque chose, une image, un reflet de Dieu, puis il y a quelque chose qui s'est pas seulement dévalorisé, il y a des inversions, tout ça. C'est terrible quand on regarde ce que c'est que l'enfer. Dieu crée, puis ça aboutit. Jésus ne serait pas venu, c'est l'enfer partout. Pour tout le monde. Pas une seule exception. Pas un seul élément de matière qui s'apprête. Cette espèce de haine. C'est terrible, quoi. Donc, à un moment, c'est un début de sagesse, de justice, de grâce, de paix et de joie, de constater, quoi, que de dire, ben oui. Nous sommes moins que si encore on était rien du tout. Presque à la limite, en étant rien du tout, ce serait mieux, quoi. Parce que, enfin, au moins, on ne serait pas à dévaler les pentes d'un enfer éternel. Les démons, c'est effroyant, quand même, quand on y pense. Les anges déçus. Donc, c'est dans ce contexte-là que se trouve l'Immaculée Conception. Voilà, elle vient de naître. Et Saint Joseph le voit, ça, parce qu'il voit tout à la lumière de l'Immaculée Conception, dont il est quelque part l'enveloppant, enfin, son morphogénétique entier, d'affinité, tout ça. Et c'est Dieu qui crée en lui cette affinité, quoi. Cette création nouvelle, quoi, on peut dire. Il la voit. Donc, il voit que le monde dans lequel il est, dont il est le roi. Faut pas oublier que Saint-Joseph, c'est quand même le roi. C'est peut-être le seul roi qui a existé dans toute l'histoire du monde. Le seul roi normal, enfin, le seul roi de droit. Le seul roi de justice, le seul roi d'humanité, le seul roi de lumière, le seul roi des hommes, le seul roi des élus, le seul roi. Il n'y a pas eu d'autre roi. On va pas me dire si, il y a eu Hérode. Ah bon? Oui. Il y a eu Hollande. Ah bon? Ah. Il y a eu des saints. Il y a eu des saints. Non. Finalement, le seul roi, c'est... Alors, lui, il voit que le monde, le Saint des Saints lui-même, dont il est le roi, la terre dont il est le roi, la chair dont il est le roi, le peuple dont il est le roi, et d'aller très 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 loin dans le fond de la terre. faible. Beaucoup moins que rien. Et si cette évidence, cette conscience, bon, parce que quand on a autorité, hein, on prend à cœur quand même. Alors qu'est-ce qu'il peut faire face à Charlie Hebdo? Tous ces passages de l'Ancien Testament où Dieu dit non, 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 ne prenez pas de roi. Surtout pas. C'est pour ça qu'il va être le roi qui va s'effacer, qui va pas exister. Et qui fait que c'est la toute puissance de Dieu qui va régner sur la matière à travers sa foi, sa justice, son ajustement, enfin, avec la royauté elle-même. La royauté la paternité. Voilà, et donc il a un regard évidemment de lumière. Enfin, je dirais, c'est Dieu qui passe à travers lui. Quand l'Immaculée Conception, il regarde Dieu, il voit rien du tout, mais enfin, c'est Dieu qui passe à travers lui. Il laisse Dieu regarder l'Immaculée Conception, quoi. Donc, le regard de Saint Joseph, le regard de Dieu, c'est finalement, c'est le même regard. Hein. Le même face à face vis-à-vis de ce qui est intime au Saint-Esprit dans l'agrès de l'Immaculé Divin. Et c'est conçu, c'est-à-dire c'est dans la lumière. Le Père engendre ça, vous voyez, et c'est extraordinaire cette descente de l'indivisibilité de Dieu à travers Saint-Joseph dans son Assomption. Alors il va garder toujours ça, et ça. Et il gardera toujours cette royauté-là. Quoi. C'est vraiment lui le roi de France, c'est le roi d'Israël, c'est le roi. Voilà, quand on parle Donc quand il va mourir, c'est Jésus qui humainement devient le roi. Jésus est Dieu, mais dans les sommets de son intelligence, dans sa vision béatifique, dans sa lumière de gloire, qui est quand même quelque chose de plus. C'est lui le roi. Il devient le roi, j'allais dire, éternel, puis le roi légitime. Et finalement, il n'y a qu'une seule royauté. En deux hypostases, c'est ça, mystère de Joseph. Ouais, toute l'histoire se termine à Joseph, quoi. Il est le terme terminant. Alors, quand il est sur la croix, Jésus, il a ce regard aussi royal. Il assume sa royauté. C'est ça, il est crucifié, il assume sa royauté. Et c'est une révélation, vous voyez, sur ce qui se passe dans la vie de Saint-Joseph. Il a assumé sa royauté aussi. Tota vita patri, crux fuit, atque martyrium. Toute la vie de Saint-Joseph, ça a été la croix et le martyr. Une agonie perpétuelle. La Gethsémanie continuelle. Et avec cette possibilité de ne pas mourir, parce que il était régénéré par l'au-delà de son unité spensale avec l'Immaculée Conception, qu'elle est toujours s'enfonçant, respirant, Et on pourrait dire, sans faire de jeu de mots, spirant, aspiré par l'au-delà de l'unité des deux, tout le temps, il s'engonçait dedans. Et s'y abreuvait, il respirait. Et voir l'autre face, vous voyez, c'est ça, et son agonie, était, et il venait s'abreuver là. Et quelque part, c'était beau de faire ça pendant des années, des années, des années. Ça durait quand même 33 ans, je veux dire. Même plus que ça. Qu'est-ce que je dis? Ça durait les 30 ans de Jésus, plus. Les 13 ans de mariage, avec 43 ans, c'est ça, 44 ans. Donc cette espèce de royauté sacerdotale de Saint-Joseph, immolé, crucifié, a permis qu'il y ait l'ouverture de ce qui est en dessous de la sagesse de Dieu, le monde des ténèbres. Et c'est lui qui a ouvert le monde des ténèbres. Alors la rédemption devient possible parce que le monde des ténèbres appartient à la royauté sacerdotale du Messie. Vous comprenez? C'est pour ça que Saint Paul disait Saint Joseph, il est vraiment la source. Il est la source de la croix. Ce qui est évident. Et c'est ce que il va engendrer dans ce mariage avec l'Immaculée Conception, dans la perfection, pas tout à fait immense, parce que cette perfection tout à fait immense est toute spiraire en Dieu, mais aspirante aussi, sans jugement, de tout ce qui est en dessous. Ils te porteront sur leurs mains, ton pied ne heurte aucune pierre. Jésus est venu, puis nous on se retrouve maintenant 2000 ans après. C'est une projection incroyable. C'est bon comme ça. Mais on se retrouve 2000 ans après, mais. Ils sont ressuscités tous les trois. Eh bien, ils viennent à nous d'une manière charmante, de manière eucharistique. Ils viennent à nous d'une manière charmante. Et ils viennent continuer leur pèlerinage dans la chair à travers nous, hein, dans le fruit de l'Eucharistie, c'est ça. Et on comprend pourquoi on a cette autorité, parce que on comprend pourquoi on laisse leur autorité. C'est que, continuer à s'exprimer et à redescendre des rivages de la fin, des rivages de Dieu, des rivages de l'accomplissement de la création parfaite, pour redescendre jusqu'à l'origine et s'enfoncer. Et donc il y a une troisième royauté. Et le royaume, ça y est au milieu de nous. Et nous annonçons le royaume. C'est un témoignage. Ce royaume-là, on peut le témoigner. C'est intérieur. On voit qu'il est là. Et l'Esprit Saint nous donne ce témoignage. Ask him. C'est pas que ça me frappe, c'est pas que ça me touche, c'est tout à la fois. Chez Saint-Joseph, il y a quelque chose. Et en même temps, tu peux pas faire plus sociable que lui, tu peux pas faire plus ponçal que lui, tu peux pas faire plus intime que lui. Bon, ben, cette année 2015 qui s'est ouverte, le pèlerinage du Saint-Père, le pèlerinage eucharistique de la Jérusalem Immaculée, avance indivisiblement dans le témoignage qui est le nôtre, et donc ça rend irrésistible la victoire. Parce que si, qui est victorieux finalement du mauvais? Qui est-ce qui est victorieux du monde? C'est celui qui porte le témoignage. C'est ce que dit l'épître de Saint Jean. Voilà. C'est pas... C'est des choses qui ont l'air compliquées comme ça sur le... textuellement, mais en fait, c'est vrai. Il y a quelque chose que le Saint-Père ne peut pas faire, il y a quelque chose que l'Immaculée Conception, la Jérusalem, l'Immaculée ne peut pas faire. Il y a quelque chose que... c'est vrai, il y a quelque chose que le sacrement à lui tout seul est inopérant. Il faut qu'il y ait un témoignage indivisible des trois, comme ça, qui fait que ça y est, on est vainqueur du monde. Voilà, il fait cette royauté, enfin, cette maîtrise, cette... Elle nous vient de lui. Hein. C'est vrai, vraiment notre père pour ça. Ça devient. Ça, c'est assez vertigineux et délicieux en même temps. De voir que l'Immaculée Conception toute seule. Toute Immaculée Conception qu'elle soit. Il faut une foi d'affinité et une agonie aussi, depuis la conception, on peut dire, en affinité avec elle. Il faut un récepteur, toujours pareil, il faut un... Et c'est évidemment pareil hein, pour l'Eucharistie. Donc la coupe qui reçoit les délices de tous les fruits eucharistiques, l'amour éternel du Père qui se donne en nourriture, sans mesure, a besoin de lui aussi. Puisqu'on le disait, on l'avait bien vu, enfin, le Seigneur nous l'a montré, je veux dire, c'est bien une révélation quand même. C'est lui hein, qui va engendrer. Dans sa contemplation, dans son mariage spirituel, de toute la matière accomplie, puis de tout l'amour, de tout le possible. Dans la transubstantiation eucharistique universelle et éternelle, il y a quelque chose qui... La foi est agissante, la foi lorsqu'elle est en affinité avec l'acte pur de Dieu, réalise ce qu'elle signifie. Et donc, c'est une autre chose qu'il faut, à mon avis, qu'il faudra beaucoup creuser avec, après l'avertissement. On va beaucoup creuser comment, justement, Saint-Joseph est comme l'engendrant, hein, de la présence transsubstantielle. Et aussi comment il est... du coup, il y a communié lui-même. Et ayant communié lui-même, il est devenu la coupe des délices de l'amour du Père qui se donne sans mesure à son Fils crucifié, disparu, détruit, broyé. La croix a bien une origine, je veux dire, dans son interface d'amour éternel, surnaturel, universel, et vivant et efficace. Il faut une source, toujours. Il faudra bien qu'on puisse vivre après l'avertissement avec lui, de la même manière, et se nourrir ainsi, de manière créatrice, recréatrice, de l'Eucharistie de l'Apocalypse. Hein. Et ça ne peut pas se faire sans être en affinité. Hein. Avec l'Immaculée Conception glorifiée dans sa responsabilité avec l'Esprit Saint, c'est pas possible. Voilà. Lui, il a communié à ça et du coup, il a fait produire son fruit, hein, jusqu'à ce que le voile se défie de ce que Dieu ne pourrait pas atteindre, hein, puisque Dieu ne peut pas atteindre le mal. Dieu est innocent du mal. Je ne sais pas ce que c'est que le mal. Donc, ce qui est pire et en dessous de rien. Et il a déchiré comme ça. Et il est descendu aux enfers. C'est impressionnant ce qui a permis le baptême aussitôt. Hein. Le baptême de l'Église. C'est ça, ce qu'on va fêter demain. L'épiphanie mène au baptême. Alors, là, on peut dire, oui, là, Dieu peut montrer que ça y est, qu'il est là, hein, qu'il n'est pas loin, qu'il est à l'intime, qu'il témoigne. Donc le témoignage intérieur de Saint-Joseph, le témoignage intérieur du Christ, le témoignage intérieur des trois ensemble, dans la divisibilité, du Saint-Esprit. Voilà, il va y avoir le baptême. Ça y est, maintenant, ça y est, l'heure est arrivée, voilà. C'est le 11 du mois de Tishri, on va pouvoir désigner l'agneau, le bouc émissaire. C'est intéressant de voir, voyez, qu'on est dans une génération aujourd'hui, tout est fait bien en son temps, qui commence à comprendre ce que c'est que le bouc émissaire. Voyez, on prenait René Girard. Voilà, c'est le seul, disons, sage, comment est-ce qu'on va dire, philosophe, comment est-ce qu'il faut dire, épistémologue. Intéressant depuis deux siècles. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que le cœur, le moteur nucléaire de toute unité de valeur, de culture, de lumière, c'est le bouc émissaire. Il faut un bouc émissaire. C'est le 11 du mois de Tishri que Jean-Baptiste dit, voilà. Il y a eu le témoignage du baptême et voilà. Et il désigne le bouc émissaire, voici l'agneau de Dieu. Jamais, pendant 3000 ans, on a parlé du bouc émissaire dans les auteurs, hein, Cicéron, Tite, Virgile, j'en sais rien, moi, Plotin, même les pères de l'Église. Voilà, c'est maintenant, René Girard, voilà. Et il est reconnu par tout le monde, pas seulement, c'est pas la théologie qui fait lui, hein, c'est génial ce type-là est lumineux, c'est... Bon. Et le nouveau et s'inscrit dans la foi du roi du nouvel Israël de Dieu sur la terre et ça implique vraiment ça. C'est que l'humanité tout entière maintenant qui est devenue bouc émissaire de Satan. Hein. Et donc ce que faire, ce qu'elle explique dans son sixième bouquin, cinquième sur ce sujet, son Clausewitz. Ouais, c'est marrant, enfin quand je dis c'est marrant, c'est pas marrant, c'est curieux, quoi, c'est curieux. Les dimensions de la spiritualité de Saint-Joseph arrivent désormais à un point d'accomplissement universel. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est ça qu'on peut dire dans une sagesse naturelle, disons métaphysique. Mais nous sommes dans une sagesse de la croix, une sagesse théologique, une sagesse de la foi. Automatiquement, elle nous engloutit, nous fait disparaître dans une communion des personnes. Et nous, on n'a plus de mission. Si vous rencontrez quelqu'un qui dit « Moi, j'ai une mission, j'ai une œuvre », c'est que c'est fini pour lui. Vous pouvez le lâcher. Hein. Moi, j'ai une mission, il n'y a pas de mission, c'est fini. C'est une mission, c'est la communion des personnes. Moi, j'ai une mission à moi. Trois en un, trois jeux, moi en un. Un en trois. Ça peut pas aller. Donc, Joseph est... aujourd'hui, c'est forcément une sagesse de la croix qui s'inscrit dans une communion des personnes. Et donc, c'est là que pour nous, Saint-Joseph est fondu en nous. Et nous, Saint-Joseph, dans l'universalité de la foi, dans l'universalité, que dis-je, de la toute-puissance divine de Dieu à l'intérieur de la foi. Qui réunit toutes les indivisibilités universelles. Voilà, et donc, il n'y a pas de l'œuvre. Voilà, on a une œuvre, on a une mission. Oui, si tu veux avoir une mission, si tu veux avoir ton message, mais c'est pas ça, je veux dire, à un moment donné. Ouais, si c'était vrai, on aurait le livre. Voilà, il ne serait pas mort avant d'avoir laissé un livre, Saint-Joseph. Voilà, quand même. Tout ce qui... Enoch, il a laissé des écrits. Élie, Saint-Joseph, rien, pas un mot. C'est une communion des personnes qu'il a écrit. Pour le cinquième saut de l'Apocalypse, dans le sacerdoce paternel de la très sainte Trinité qui spire à un monde nouveau. Et pour nous, c'est facile, notre témoignage s'inscrit donc dans une communion des personnes. Il serait temps, ce que dit Saint-Jean, si tu n'aimes pas, t'es pas dans la communion des personnes, tu peux pas y croire en Dieu, c'est pas possible, quoi. Saint-Jean, lui, il est très 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 branché sur la femme. Ah, lui, Saint-Jean, complètement sur la femme. Si t'es pas dans la communion des personnes, si t'as pas la mort du proche, c'est fini, tu peux pas. Oui, c'est sûr, ça. Des personnes. Aujourd'hui, c'est ça, c'est là le roi, le fameux le plus grand de tous les saints de tous les temps, on appelle le grand monarque, vous savez, en France, là, qui probablement se trouve quelque part, je sais pas où, n'a pas de mission. Il n'y a pas une œuvre qui lui soit propre. C'est le nouveau Saint-Joseph, c'est tout. C'est le nouveau Saint-Joseph, en tant que tel, il n'y a pas de mission, une mission, il faut être envoyé. Et Saint Thomas dit que le Père n'est jamais envoyé. Il est le principe, il est la coupe, il est la cuve, ce qu'on dit dans notre prière, il est le bassin, vous voyez. Il est le trône. Le trône, c'est lui. Et celui qui est au-dessus de lui, c'est lui aussi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les temps où nous entrons, avec le cinquième sceau de l'Apocalypse, nous entrons dans un temps où la sainteté est une sainteté de communion des personnes avec lui. Et c'est lui. C'est ce que Dieu lui a fait vivre, ce que Saint-Esprit lui a fait vivre. Que nous allons vivre en pleine lumière, quoi. Hein, le royaume. Ouais, c'est sûr qu'avoir le sens de ce qui se passe dans le principe, dans la paternité si délicate, si. C'est même pas infiniment délicate, c'est vulnérable, mais d'une manière éperdument délicate et vulnérable du Père, première personne de la très sainte Trinité. Ce sens, il l'a, il n'ose pas s'approcher, je veux dire, je sais pas comment dire, parce qu'avec tout ce qu'on a, puisque heureusement qu'il sait qu'il est moins que rien, mais on sait que du coup, en l'Immaculée Conception, il est plus que rien. Et avec une discrétion dans la communion des personnes, il se pose là, quoi, pour que. Et c'est pour ça que Dieu peut créer un monde nouveau avec lui. Et il a ce sens de l'amour du Père vis-à-vis de. La poussée vis-à-vis de Dieu, quoi, vis-à-vis de Dieu lui-même. Et il a ce sens, à tel point que dans l'accomplissement glorieux de sa vision béatifique, de sa résurrection, et qui est sans arrêt d'ailleurs happé, si je puis dire, dans l'incréé des inspirations trinitaires, lorsque il se rend présent toujours dans le principe du Saint des Saints, cette vulnérabilité inouïe, vertigineuse de l'amour de Dieu, de l'amour du Père nous. Et c'est à cause de cette aspiration, elle-là, que le pèlerinage de Saint Joseph dans l'Apocalypse est un pèlerinage descendant. Vous lirez l'Apocalypse, vous verrez. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on sait, hein. On n'arrête pas de le répéter, mais il y a des choses qui nous aident quand même. Et parmi ces choses qui nous aident, il y a ce fait qu'on sait que Dieu donne toujours les trésors les plus purs à ceux qui désirent. Et elle est pénétrée. Donc, si tu exprimes le désir, mais très ardent, quoi, que la révélation te soit faite de cette royauté victimale de Saint Joseph dans l'ouverture du cinquième sceau et dans ce parcours du vol vers l'agneau, à une spontanéité immaculée et glorieuse, si tu désires en voir un petit peu les aspects. Les nuances, les précisions. Tu verras que tu ne pourras pas écrire un bouquin. Mais ça te sera montré. Il y aura une communion des personnes avec lui. Et tu te laisseras emporter avec lui dans ce qu'il continue à faire, dans l'universalité du monde, pour ceux qui disent oui. Mais il y a un désir à avoir. Parce que la révélation, au fond, de cette délicatesse, de cette liberté d'envol dans le monde nouveau, ne suffira pas. Il faudra y rajouter, y faire surabonder au centuple un désir ardent. Avec lui. Une communion de personnes avec Saint Joseph. Et une des choses peut-être les plus touchantes, les plus merveilleuses aussi, c'est que l'Immaculée Conception, tu peux pas faire plus qu'elle, ben, elle ne trouve que en lui. un désir d'approfondissement de son immaculée conception. Ce n'est qu'en lui que son immaculée conception peut grandir. Il faut le voir, ça. Et ça, c'est indéniable. Alors on peut le dire, si vous l'aimez. On peut désirer le percevoir, cette espèce de vertige de l'immaculée conception en Dieu qui s'engloutit en lui, parce que il n'y a qu'en lui que ça va grandir. Dieu ne fait pas grandir, Dieu y crée. Comme dit le créateur de Dieu, se termine à l'essai. C'est ce que Occam n'a pas compris. C'est que Descartes, du coup, à la Sorbonne, ils n'ont toujours pas compris, quoi. Marion n'a rien compris à ça. Bon, ça ne vous dit rien, c'est pas grave.
C'est quoi l'essai?
Ah, c'est le début, c'est... Elle ne sait pas ce que c'est qu'un essai.
E-S-S-A-I, c'est ça?
C'est ça.
Je n'ai pas parlé d'essai.
Ah, qu'est-ce que vous avez dit alors?
Si, vous avez parlé d'un essai.
Non.
Si.
Non.
Je termine à l'essai.
Vous avez... Oui.
Ah, à l'essai. À l'être. E-S-S-E.
Ah, essai.
Se termine à l'essai. La créature de se termine à l'être.
Alors, heureusement qu'elle a posé la question. À l'être.
À l'essai, oui, d'accord.
Eh oui. La vie n'est pas créée par Dieu. La créature de Dieu ne crée pas la vie. Il donne la vie. Mais comme créateur, c'est l'essai, c'est l'être en acte, c'est l'être, l'existence, le est dans l'intérieur de ce qui fait que le est est. Ceci est mon corps. L'essai, là, il y a la créature, là, le créateur. Si tu, là, le créateur, mais, ah, il me donne des impressions vivantes, imbéciles.
C'est un des premiers coups.
J'ai l'impression que tu as l'impression. Ah, oh, oui. J'ai l'impression. Non, alors bon, ça c'est sûr, à la Sorbonne, ils n'ont pas compris. Depuis Occam, c'est fini, hein. Tu comptes 666 plus 666, 1332, à partir de 1332, terminé. Plus personne. On a quand même, ça fait quand même pas mal de générations, ça fait 7 siècles. Hein. 7 siècles où il n'y a plus rien, quoi. Sur, alors bon, il y a René Girard qui arrive avec... C'est beau, ça. Et l'ouverture du cinquième saut. Enfin, voilà, donc il y a une, il y a sûrement quelque chose de magnifique, parce que ce qui va nous être donné au cinquième saut, c'est pas un nouvel essai, ça. Attendez, le créateur reste toujours le créateur, l'existence reste toujours l'existence. Mais le monde nouveau n'existe pas encore. Donc il va bien y avoir un créateur. Qui implique forcément une fulgurante manifestation de la lumière primordiale en nous. Et ce qui implique que le Créateur va être, à travers justement la Sainte Famille Glorieuse, nous accorder dans l'indivisibilité cette lumière, hein, dans le principe de nos vies. Alors pourquoi ça ne dure que 21 minutes, ça, je sais pas, là, on sait rien. Important, c'est vrai. Pourquoi est-ce que. Hein, on va dire que oui, ça dure 21 minutes et 47 secondes parce que Louis XIV a un jumeau qui est parti à Ottawa. Ouais. Bon.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Non, mais les gens qui écrivent des bouquins comme ça. Bon, non, mais non, c'est pas à cause de ça. Mon Dieu, le temps qu'on perd Alors que vous vous rendez compte, toute la vie contemplative, le désir qu'on a de rentrer dans la royauté, quoi. Dans la royauté, dans l'épiphanie de la royauté toute divine et immolée. Alors, lançant la mire. Voilà, et ça. Donc, c'est une communion des personnes. Et dans le monde nouveau, il n'y aura pas de sainteté personnelle ou de monde. Non, il y a une communion des personnes. On pourra s'y engloutir et immédiatement, vous voyez, dans ce nid, quoi, dans ce nid originel et puis aussi glorieux de la spontanéité du Saint-Esprit avec l'au-delà de la Sœur Jérusalem glorieuse. Voilà, dans notre oui originel. Voilà, donc ce sera. C'est la grâce de Marie, c'est la grâce de sa spontanéité perdue et disparue en Saint-Joseph. C'est la grâce eucharistique messianique. C'est frappant quand même quand on voit. Bon, d'accord, faut pas en faire un plat, mais quand on voit ce père Mangeacal qui s'en va dans un coma, et puis hop, il part en NDE, et puis il voit des gens en enfer, et des gens qu'il a connus sur la terre, qui sont morts, ceux qui sont en purgatoire, il parle avec eux, mais comment ça se fait que je sois là, et puis d'autres qui sont au ciel, bon, par vie en fait. Et puis à un moment, il dit, voilà, il y a Jésus qui est là, mais Jésus ne le voit pas. Il voit que c'est le seul avec qui il ne peut pas toucher la main. Mais il est là, et il le voit comme une forme eucharistique, quoi. Il voit que c'est Jésus qui est réellement présent là, dans le parvis, hein. Mais c'est une gloire eucharistique, donc il y a une interface dans la lumière de gloire à l'intérieur, au-delà du parvis. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas voir? Ben oui, c'est parce que Jésus, c'est l'Eucharistie. Il est chouette ce passage du Père Mangeacal. Voilà, donc c'est vrai que Jésus, c'est l'interface, vous comprenez? Et Joseph, il est de ce côté là-bas. Et la communion des personnes aussi, c'est de l'autre côté là. Et bien ça, il faut arriver à percevoir ça. Où est-ce que c'est? Comment on fait pour y pénétrer? S'y engloutir, s'en nourrir, y habiter. Et à ce moment-là, c'est la royauté du cinquième sceau de l'Apocalypse. C'est les catholiques du cinquième sceau, vous voyez? C'est une communion des personnes. Là, il n'y a pas de mission là. La mission invisible du Saint-Esprit, la mission invisible du Verbe de Dieu, sont en train de sourdre dans la péricorèse de la glorieuse Eucharistie, quoi, de la communion des personnes. Voilà, parce qu'ils sont tous les trois sources, en un, indivisiblement, dans l'indivisibilité de Dieu. Il faut le percevoir, ça. Ouais. Alors, on peut l'entendre comme ça, exprimer, taper sur un truc, mais c'est une autre chose, et c'est ça qu'il faut tout le temps dire. C'est une autre chose que de dire, mais c'est... Je veux être saisi par ça, je veux le voir, quoi. Je veux pas seulement le sentir que c'est vrai, quoi. On a ce désir. On a ce désir d'amour et de lumière, de pénétrer, de disparaître, et que les missions invisibles du Saint-Esprit, du Verbe de Dieu, dans l'âme universelle de la nature humaine, universelle à travers nous, rejoignent la Sainte Famille, hein, dans l'au-delà. Du purgatoire. Le parvis fait partie du purgatoire. C'est pas le ciel. James.
Le parvis, c'est le purgatoire.
Mais oui. Il n'est pas dans la vision béatifique, c'est pour ça qu'il ne peut pas. il faudra bien être au-delà de mes chaumes. De mes chaumes ne sera pas supprimé.
Il ne sera pas supprimé.
Non, à partir du moment où il y aura Chicoussi, mes chaumes, Jésus l'explique deux fois dans l'évangile. Une désolation s'inscrira jusqu'à la fin du monde. Une désolation. Ah, mes chaumes, hein. C'est la tradition mes chaumes, la désolation. Telle qu'il n'y en a jamais eu, telle depuis le début de la création du monde, et telle qu'il n'y en aura jamais d'autre jusqu'à la fin du monde. Si, si, comme ça, je tiens l'évangile.
Moi, je pensais que l'avertissement, etc., ça a enlevé le.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est, si tu peux échapper au filet de l'Oiseleur pour rentrer en communion avec. Et ils ne vivent plus que de la mission, entre guillemets, quoi, de l'indivisibilité sponsale de Saint-Joseph, de Marie, et du jaillissement eucharistique de la lumière de gloire du Christ hein, au-delà du voile. Si t'es pas englouti là-dedans, si c'est pas là ton centre de gravité, c'est à partir de quoi tu vois toute chose, le méchaume. L'avertissement ne va pas supprimer quelque part les contradictions, c'est-à-dire elle va nous mettre devant la contradiction à l'état pur. Au niveau catho, tu ne pourras plus faire ta petite cuisine. Ah, je suis homosexuel, donc je ne peux pas fonder une famille, bon, il n'y a qu'à faire curé, hein. Comme ça peut-être que je serai évêque, je pourrais faire quelque chose dans l'église, d'accord. C'est sa cuisine, parce qu'il. Non, ça peut pas aller. Voilà. Non, non, on est appelé quand même à être engendré de Dieu éternellement. Dès cette terre, je veux dire, quand même, les voies fraternelles de l'univers. Et tout le mal qui s'approche de nous doit disparaître de notre terre, hein, de notre chair. Et voilà. Et cette mère de cristal, de cette chair nouvelle, de cette chair, de ce monde nouveau, ça n'empêche pas que Saint-Joseph ait été extrêmement concret. Hein. Je ne sais pas si je pourrais faire des escaliers comme lui, mais. Sans mortel, hein. C'est pas pour autant qu'on est des évaporés.
Oui, c'est ça.